La première, 18h15, 19h, le samedi, le fantôme de la radio, Eric Lauze.
Bonsoir, c'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Je me faufile incognito chez vous, où j'écoute avec attention tout ce que vous écoutez. Je me glisse dans vos baladeurs, transistors, autoradios et même au cœur de vos téléphones portables. Voilà pourquoi je sais depuis longtemps quel genre de programme vous préférez. Invisible de jour comme de nuit, je regarde très souvent la télévision à vos côtés dans votre salon, sans me faire remarquer bien sûr, mais il est parfois difficile pour moi de garder le silence devant cette frénésie d'images et de lumière. Toutes ces péripéties m'ont permis d'accumuler dans mon immense mémoire des milliers d'heures de souvenirs. Tous les programmes que j'ai vus et entendus y sont classés et archivés. Et chaque semaine, je vous en propose quelques extraits, choisis autour d'un thème ou d'une personnalité, au cours de cette émission que j'ai le grand plaisir de vous présenter. Alors si vous avez encore un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seule une ombre qui a traversé les âges peut vous raconter des histoires comme celles que vous allez entendre ce soir. L'Orient Express, le plus connu des trains de luxe, un des nombreux symboles du progrès galopant et triomphant de la révolution industrielle du XIXe siècle. Ce véritable palace sur rail ouvre la route des Balkans et des empires encore mal connus au parfum de mystère. Fréquenté par l'élite et les bien nantis, les artistes fortunés, les diplomates, les espions et la noblesse en quête d'évasion, l'Orient Express permet dès 1883 de relier Paris à Constantinople, qui n'était pas encore Istanbul, en passant par Vienne, Budapest et Bucarest. 3000 kilomètres en quelques jours, une révolution. Imaginé par l'ingénieur belge Georges Nagelmakers, fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits, l'Orient Express se distingue de tous les autres trains par son confort, son luxe inouï et les repas gastronomiques servis à bord. L'opulence, toutefois, ne protège pas des ennuis. Traverser ces contrées instables n'est pas sans danger ni imprévu. Attentats, attaques par une bande armée, tempêtes, meurtres, l'Orient Express connaît mille et une péripéties qui inspireront les écrivains et qui le feront entrer dans la légende. La RTBF s'est intéressée de près à l'histoire de ce train devenu mythique et plus précisément à sa genèse, à son déclin, puis à sa renaissance. Revivons ensemble cette épopée ferroviaire extraordinaire grâce aux séquences, reportages et interviews retrouvées dans les archives. Alors, en voiture, voyageuses et voyageurs, je vous invite à me rejoindre à bord de l'Express à remonter le temps. Nous partons dans quelques instants. Toute cette histoire commence en 1868 à cause d'un chagrin d'amour.
Georges Nagelmakers avait, jeune ingénieur, s'était amouraché d'une de ses cousines et que ça ne faisait pas tellement plaisir à sa famille. Alors pour l'éloigner, on a fait ce qu'on faisait beaucoup en ce temps-là, on envoyait les jeunes gens faire un grand voyage. Là, il est parti aux États-Unis.
Jean-Paul Caracalla, de la compagnie des wagons-lits.
Et en fin de compte, il est tombé amoureux des wagons-hôtels, comme on disait dans ce temps-là. Et il a su, évidemment, tout de suite voir le parti qu'il pouvait en tirer en Europe, puisque vous savez que ces wagons hôtels étaient des wagons à couloir central avec des rideaux où il y avait plusieurs couchettes. Et lui a immédiatement pensé qu'à adapter ça en cabine, comme une cabine de bateau, où il y aurait un couloir latéral et où les cabines seraient fermées, où chacun serait autonome.
Bon sang, mais c'est bien sûr, se dit le jeune Georges. Il suffit d'adapter le principe aux usages européens. Il suffit. Rentré en Belgique, Nagelmakers se lance dans l'aventure. Une gageure dans le contexte politique de l'époque.
Nous sommes en 1870.
Jacques Normand, responsable patrimoine des wagons-lits.
La guerre entre la France et la Prusse. Les difficultés qui existent sur le plan ferroviaire. européen, chaque pays ayant son propre réseau. Mais dans chaque pays, il y a différents réseaux. Alors pensez donc faire circuler une voiture lit ou une autre sur un parcours international, c'est de l'utopie.
Obstiné, Georges Nagelmackers s'investit à fond dans son projet et y investit ses deniers. Une première compagnie voit le jour en 1872 et ça marche, à tel point qu'il décide de créer une nouvelle société à capitaux élargis. En 1876, c'est la naissance de la Compagnie internationale des wagons-lits. Avec un actionnaire peu banal, Léopold II, son argent, ses relations diplomatiques internationales. Avec aussi un atout majeur, la Belgique est un pays petit et neutre.
Je crois que premièrement, l'investissement au départ avait été très important pour Georges Nagelmackers.
Jean-Paul Caracalla, de la Compagnie des wagons-lits.
La preuve, c'est que une première fois, il est obligé de s'associer avec un Anglais, le colonel Mann, pour pouvoir faire repartir la société. Ça, c'est en 1873. Ensuite, le colonel Mann repart pour les États-Unis, une espèce d'être assez fantasque. Et heureusement, Georges Nagelmackers, à ce moment-là, est soutenu par le roi Léopold II, qui, lui, va lui apporter cette espèce de caution et de richesse, parce que c'est le moment encore où Léopold II est propriétaire du Congo, enfin c'est vraiment beaucoup d'argent dont il a besoin. Et Georges Nagelmackers, à ce moment-là, investit dans la construction de ses voitures, mais il fait une chose qui, un investissement qui est à long terme, c'est-à-dire qu'il ne pense pas tout de suite à rentabiliser l'Orient Express, il pense à beaucoup d'autres trains et qui vont complètement sillonner l'Europe. Hein.
Devant le succès extraordinaire que remporte Georges Nagelmackers, la nécessité de créer des trains, je dirais croisières, complets, se font sentir. Jusque-là, on voyage la nuit.
Jacques Normand, responsable patrimoine des wagons-lits.
Mais on ne se restaure pas. Donc, la première voiture restaurant en 1882 est accrochée au premier train qui sera, disons, le prototype du train le plus mythique au monde, l'Orient Express.
L'Orient Express, Paris-Constantinople en 67 heures, un record à l'époque. Confort, luxe, beauté, sécurité, rapidité, la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens transporte aussi le courrier, les valises diplomatiques.
L'Orient Express va démarrer de Paris sous le nom Train Express d'Orient, c'est par une contraction de l'allemand qu'on appellera Orient Express, le jeudi 4 octobre 1883.
Jean Descartes, écrivain.
Il s'agit du premier train international direct uniquement composé de voitures-lits et de voitures-restaurants. Ceci est important. Il y a un matériel homogène. Très bref d'ailleurs, il y a deux voitures-lits, un wagon-restaurant et deux fourgons. Ce train part donc de la gare de Strasbourg, l'actuelle gare de l'Est, en direction de Munich, de Vienne, de Budapest et de Bucarest. Là, il faut un transbordement sur le Danube. Les accords que M. Nagelmackers a obtenus avec les administrations ferroviaires, car il faut rappeler qu'il n'y avait pas le chemin de fer à l'époque, mais les chemins de fer, différentes compagnies, publiques, privées, différents matériels, différentes réglementations, ces accords s'arrêtaient là. On prenait un tortillard épouvantable et ensuite on arrivait sur la mer Noire, à Varna. On prenait un vapeur du Lloyd autrichien et après 15 heures d'une traversée en général agitée, on atteignait Constantinople. Cet Orient Express, c'est le seul train au monde qui ait le droit au nom Orient Express sans préfixe ni suffixe. C'est donc la voie du Nord, la voie du Danube.
Le patron et fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits, Georges Nagelmackers, organise lui-même le voyage inaugural dans ses moindres détails. Le 4 octobre 1883, le train Express d'Orient, son nom d'origine, quitte Paris à destination de Constantinople pour la première fois. À bord, 24 invités, issus de la classe politique, du monde des affaires et de la finance, français et belges pour la plupart. Il y a également des représentants des chemins de fer, un diplomate turc, ainsi que deux journalistes et un écrivain.
Dans les voitures, lits et voitures-restaurants du premier voyage conçu par M. Nagelmackers,
Jean Descartes, écrivain.
Il y avait heureusement trois témoins littéraires, deux journalistes, l'envoyé spécial du Figaro, M. Georges Boyer, l'envoyé spécial du Times, M. Aubert de Blowitz, et l'écrivain romancier français Edmond Tabou. Et ils nous ont très heureusement laissé des récits, des reportages pour les deux journalistes. Celui du Figaro, par exemple, que nous avons retrouvé, le Figaro de l'époque, est sorti à la une, 15 jours après le retour du voyage, disant qu'aujourd'hui, on peut aller à Constantinople comme sur les bords de la Manche et en revenir, ce qui est encore plus fort. Et ce papier est titré « L'Orient à toute vapeur ». Et Edmond Tabou dit très bien que désormais, le voyageur sera le pèlerin d'un nouvel art de vivre. Il sera considéré bientôt comme un animal sacré, comme un chat d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe avec l'Orient Express? C'est que les 24 personnes, il y avait d'ailleurs le ministre belge des Transports à bord du train, vont découvrir le plaisir de voyager dans un train où non seulement on transporte ses bagages, mais aussi ses habitudes, c'est-à-dire celle de dormir confortablement, de pouvoir faire sa toilette, de pouvoir savourer une cuisine de qualité avec un service digne d'un grand restaurant. C'est-à-dire que le palace sur rail est inventé. Et c'est ça, cet art de vivre qui va être tellement européen, qui va faire la légende de l'Orient Express. Pour dire un exemple, bien plus tard, il y aura des Hongrois qui vont utiliser l'Orient Express, la branche du Nord, uniquement pendant 300 km pour le plaisir de faire un déjeuner à bord du wagon-restaurant. Et c'est le seul train au monde, par exemple, qui figure dans un testament, puisque pendant des années, des joueurs, des tziganes, des joueurs de violon, d'accordéon, montaient à bord pendant 500 km, dans un sens et dans l'autre sens. On se demandait toujours pourquoi. C'était jusqu'à l'épuisement d'une rente qu'avait voulu faire un riche Hongrois, tellement il avait aimé ce train. Alors ce premier voyage va transformer le voyage en général. Désormais, le voyage confortable est né.
L'écrivain embarqué dans l'Orient Express, c'est Edmond Tabou, qui sera bientôt membre de l'Académie française. Il consigne ses souvenirs de ce voyage inaugural dans son ouvrage « L'Orient Express de Pontoise à Stamboul », dont voici quelques courts extraits.
L'Orient Express, trois maisons roulantes, longues de 17,5 mètres, construites en bois de teck et en cristal, chauffées à la vapeur, brillamment éclairé au gaz, largement aéré et aussi confortable pour le moins qu'un riche appartement de Paris. Les invités de la compagnie, les parents, les amis, les curieux qui nous entouraient à la gare de l'Est ne pouvaient en croire leurs yeux. Mais ce fut bien autre chose après le coup de sifflet du départ, lorsque notre bagage fut installé dans de menues chambrettes à deux, à trois ou quatre lits et qu'un repas délicieux nous réunit pour la première fois dans la salle à manger commune. Il est invraisemblable, ce symposium précédé d'un petit salon et d'un joli fumoir et suivi d'une cuisine grande comme la main, dans laquelle un superbe bourguignon à barbe noire fait des miracles. J'ai conservé presque tous les menus de cet artiste sans rival. La chambre, nette et luisante comme un sous-neuf, n'a pas reçu une seule couche de peinture, pour l'excellente raison qu'elle est boisée du haut en bas. Le matelas et l'oreiller sont juste à point, ni trop mou ni trop dur. Les draps qu'on change tous les jours par un raffinement inconnu dans les maisons les plus riches exhalent une fine odeur de lessive. Le confort est un peu comme le galon. Dès qu'on en prend, on n'en saurait trop prendre. À force d'être bien, nous sommes déjà devenus exigeants et les deux cabinets de toilette qui s'ouvrent à chaque bout de chaque wagon-lit ne nous suffisent. Il nous en faudrait au moins quatre. Ils sont installés avec luxe, amplement pourvus de savon, d'eau chaude et d'eau fraîche, et maintenu dans un état irréprochable de propreté par les valets de chambre. Mais soit pour la toilette, soit pour les autres besoins de la vie, ils ne peuvent héberger qu'un voyageur à la fois. Nous sommes donc obligés le matin de nous attendre les uns les autres, et quelquefois assez longtemps.
Il n'y a aucune femme à bord, par mesure de prévention, car, dit-on, Nagelmackers craint une attaque du train par des brigands lors de la traversée de la Bulgarie. Il a d'ailleurs demandé à ses invités d'emporter une arme avec eux. Fort heureusement, ce voyage inaugural se passe sans encombre. La liaison continue entre Paris et Constantinople est établie en juin 1889. Fini désormais les changements de convois et autres relais par bateau-vapeur, et bientôt l'Orient Express emprunte d'autres voies, de nouvelles routes vers l'est, notamment via le tunnel du Simplon, creusé sous les Alpes entre la Suisse et l'Italie.
En 1919, conséquence du traité de Versailles, l'un des 400 articles du traité de paix, prévoit la création d'un Orient Express du Sud qui s'est appelé le Simplon Orient Express, qui ne partait à ce moment-là plus de la gare de l'Est mais la gare de Lyon, passait par Lausanne, Milan, Venise.
Jean Descartes, écrivain.
Sofia Zagreb et rejoignait à Belgrade la branche du Nord. Et ce Simplon Orient Express a très vite ravi la vedette à son aîné du Nord, parce que ça a été le train des années folles de Paul Morand, d'Agatha Christie, de Maurice de Cobra, le train des voyages de noces vers les lacs italiens. Et en 1924, la Suisse a vu passer sur son territoire un deuxième Orient Express sous la forme de l'Arlberg Orient Express par Zurich et Innsbruck. Ce qui veut dire qu'avec des branches intermédiaires et des correspondances vers Prague, Varsovie, Berlin, Ostende, la correspondance avec Vienne, Ostende-Vienne était très très au point, et correspondance avec Londres, l'Orient Express est le seul train au monde qui soit en même temps un train et une famille de trains. Ce qui fait que beaucoup de gens se sont trompés. Et il faut évidemment regarder une carte de l'Europe pour comprendre que c'est le même train mais qu'il y a des prénoms différents.
Seul point commun entre les clients de l'Orient Express, l'aisance financière. Tous ont largement les moyens de se payer un voyage qui, à l'époque, coûte l'équivalent de 6 mois de salaire d'un ouvrier qualifié.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix d'une place? Est-ce qu'il y avait d'abord des classes différentes où automatiquement, dès qu'on prenait ce train-là, on était dans la même classe? Et est-ce qu'on peut avoir une idée du prix par rapport au prix de la vie?
À l'époque, vous aviez déjà deux classes. L'habitude, évidemment, de la clientèle britannique ou belge de l'époque était de voyager en première classe et d'avoir son personnel, ses domestiques, qui voyageaient en seconde classe.
Jean Descartes.
Alors, on a calculé que le prix d'un billet, Ostende, Constantinople, revenait à peu près à 6 mois de gage d'une femme de chambre dans un hôtel particulier de Mayfair à Londres, ou à 3 ou 4 costumes taillés et coupés dans Savile Row, également à Londres. C'est-à-dire vraiment un très très haut prix. Mais qui voyageait? Peu de monde, mais des gens très importants, n'est-ce pas, qui ont joué un rôle politique, diplomatique ou culturel en Europe. Et pour parler du recul de l'idée européenne, hélas, cher à George Nagelmacher, c'est qui est mort en 1905 et qui n'a pas vu que l'Orient Express pouvait précéder des trains blindés et des trains de guerre, songez qu'on allait de Londres à Constantinople sans passeport en 1889. C'est assez fantastique, une carte de visite suffisait. Ben nous en sommes loin aujourd'hui.
Ces passagers munis de leur carte de visite présentent des profils très différents. Ils sont artistes, célèbres, bourgeois, industriels, aristocrates, espions, aventuriers, diplomates ou banquiers.
Alors les gens qui prenaient ce train étaient des diplomates, des gens riches, de riches marchands.
Jean-Paul Caracalla, de la compagnie des wagons-lits.
Des marchands persans. Certainement très fortuné, puisque Paul Claudel disait que ces gens-là mettaient leurs diamants au fourgon à bagages. Alors on imagine la fortune qu'il y avait. Il y avait des gens comme Gulbenkian, par exemple, qui a fui le fameux holocauste turco-arménien et qui a roulé son fils dans un tapis et l'a emporté dans l'Orient Express. Enfin, il y avait des personnages extrêmement riches, extrêmement connus. Vous savez que le Figaro avait une rubrique spéciale. Et il demandait régulièrement à la compagnie des wagons-lits de donner le nom des gens qui allaient voyager sur l'Orient Express, comme si c'était des grandes vedettes. Et dans le rapport du conducteur de wagons-lits, vous savez, le garçon qui accompagne en uniforme marron et rouge, qui accompagne les voyageurs, il avait faire un rapport à chacun de ses voyages, et il devait rajouter, il y avait une rubrique « personnages », 2 points. Alors là, il mettait les gens très connus qui voyageaient à bord de son train.
Et je crois que ça fait partie, si vous voulez, ce côté exposition universelle ambulante, ce cosmopolitisme qui sera merveilleusement dépeint par Paul Morand, fait partie en effet de sa légende. On parle toutes les langues à bord du train.
Jean Descartes.
Il y a des lords anglais qui vont chasser dans les Carpates, des barons hongrois qui vont chercher du pétrole du côté de la Caspienne. Enfin, il y a tout le monde, les espions, les madones, les diplomates, les ingénieurs qui vont installer par exemple le téléphone, les ingénieurs de la firme Siemens qui vont installer le téléphone au Caire. C'est une chose étonnante.
Bah, il la remercie de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah, non. gens, ils se moquent pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cage. Pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins. Pour davantage.